voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
David Chanel exploite un cabinet de praticiens en psychopédagogie positive. Il propose un ensemble d'outils pour accompagner les personnes dans la découverte du processus d'apprentissage et de développement. Dans cette deuxième émission, La Voix du Kaizen, David revient sur son parcours un peu rebelle qui lui a permis de trouver sa place. Donc David, tu es devenu biologiste, hein, tu t'es intéressé à tout l'univers marin, celui des océans. Qu'est-ce qui a fait que tu quittes cet univers-là pour te lancer dans la psychopédagogie dont on va parler maintenant?
Eh bien, je pense que j'étais vraiment très curieux. Il y a quelque chose d'un petit peu métaphysique d'aller aux origines de la vie, enfin de remonter à l'origine de la vie. Alors, on m'avait beaucoup parlé de la photosynthèse quand j'étais au collège et je me souviens très très bien d'une prof de quatrième qui m'avait dit que j'arriverais jamais à rien en biologie parce que je savais pas écrire le mot chlorophylle. Et ça a éveillé quelque chose chez moi de très intéressant, c'est-à-dire une espèce d'esprit un petit peu revendicatif et de dire « Ah bon, puisque c'est comme ça, eh bien, je me suis mis au défi moi-même. » Donc, ça a activé un moteur interne de motivation.
Et ta rencontre avec la psychopédagogie ?
Alors, j'ai fait diverses formations sur les apprentissages, notre façon d'apprendre à apprendre. Et puis, j'ai pu rencontrer Audrey Acoun et Isabelle Payot, qui sont cofondatrices de la Fabrique à Bonheur, qui est un organisme à Paris. Elles sont aujourd'hui beaucoup avec Florence Servan-Schreiber, et qui sont deux psychologues cliniciennes du travail et qui ont rassembler au sein d'une formation intéressante tout un ensemble d'outils à la fois donc de psychologie positive et de pédagogie positive. Alors ça va des techniques de mind mapping, de justement de la gestion mentale, j'évoquais ce qui se passe dans la tête, mais aussi tout ce qui est psychologie positive. Alors aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement alors les différents effets, Pygmalion, etc. Quand on dit à des enfants ou à des jeunes qu'ils vont y arriver, que c'est juste que tu n'y arrives pas encore, mais tu vas y arriver, ça a des effets extrêmement positifs, quoi. Et que par contre, on a des prophéties autoréalisatrices. Quand on dit à un gamin qu'il ne va pas y arriver ou qu'il n'y arrive pas, eh bien, effectivement, il s'installe la croyance qu'il est trop nul pour ça et qu'il n'y arrive pas. Donc, en réalité... Souvent, les enfants, ils sont programmés par leur propre système familial, par leur système de croyance, lui, dans lequel ils sont, dans lequel ils baignent. Et ça peut être aussi quelquefois à l'école qu'ils se chopent des croyances. De la même façon que j'aurais très bien pu choisir de croire cette enseignante qui me dirait que j'arriverais à rien en biologie, mais je devais avoir l'esprit de contradiction suffisamment fort pour retourner ça dans l'autre sens et m'y accrocher fermement finalement.
Et donc aujourd'hui, tu choisis d'utiliser tes connaissances, tes compétences au service de l'enfant, de l'éducation, pour pouvoir permettre à ceux qui sont en décalage avec le système scolaire de mieux s'en sortir, ou quel est l'objet, quel est le but ?
Ça peut être des enfants qui sont en décalage avec le système scolaire. C'est vrai, et quelquefois, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, la note où les parents qui sont un petit peu... inquiet de ce qui se passe, mais en réalité, en général, l'enfant est demandeur, c'est-à-dire que les gens viennent à moi par le biais d'orthophonistes qui connaissent mon travail, certains kinésithérapeutes, les enfants sont à la recherche de solutions très souvent pour s'en sortir, puis petit à petit, en se faisant connaître, effectivement, on se dit il y a une approche holistique qui permet de redonner de la confiance, du goût dans les apprentissages et le désir d'apprendre, quoi.
Donc, quand tu dis les parents sont en recherche de solutions, mais pour répondre à quelle problématique, donc à celle de l'enfant qui ne trouve pas sa place dans la classe, l'enfant qui ramène des mauvaises notes, ou quel type de problème finalement rencontrent les parents dans le système éducatif actuel?
Il y a beaucoup de stress hein, que les parents prennent en écho hein, de la part de l'école, hein, d'une manière générale. Mais effectivement, des enfants qui ne trouvent pas leur place en classe, qui ne sont vraiment pas épanouis et donc qui peuvent arriver dans des stades qui sont, je ne peux pas qualifier de dépressifs, mais enfin où c'est effectivement très très délicat et conflictuel. Alors quelquefois avec des étiquettes de poser, hein, c'est-à-dire... alors je dis, il faut toujours faire attention parce que ce n'est pas à l'enseignant... Alors, je m'inclus dedans, j'ai été enseignant et j'enseigne encore. C'est pas l'enseignant de poser un diagnostic de dyspraxique ou dyslexique ou dyscalculique. Il y a des métiers de la santé qui sont là pour effectivement établir des diagnostics. Mais par contre, ben, on aime bien effectivement identifier et assez rapidement pouvoir dire quelle est la cause d'un certain nombre de problèmes. Je pense que... l'hyperactivité est assez caractéristique de ça, c'est-à-dire quand on a des enfants qui bougent beaucoup, on a tendance assez facilement à les étiqueter d'hyperactifs. Et nombre de parents disent, bah oui, mais mon enfant, il est hyperactif, alors ok, il est hyperactif, il a besoin de bouger en réalité, mais très souvent, si je trouve un vecteur dans lequel il est capable de se concentrer, de rester très calme, ah oui, ça peut être le cas, bien sûr, bah, ou pendant le jeu vidéo, ouais, là, ou alors s'il écoute de la musique parce qu'il est passionné de tel ou tel truc, ah oui, là, il peut rester des heures, mais à l'école, non. Ok, donc ça, c'est souvent révélateur pour moi. Ça peut être les notes, effectivement, mais pas toujours. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des enfants... Puis c'est très relatif à partir de quelle note vous estimez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez un enfant. Voilà. Alors, c'est très variable. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Non, c'est la cata, là, parce que la petite intelle est là 12 de moyenne, au moment donné. Donc, ça ne va pas. » Ok, mais il y a aussi tout ce qui va avec la croyance familiale. Puis certains, c'est « Oui, non, mais là, il est passé de 8 à 10, et c'est bien, quoi. » Enfin, voilà. Donc, c'est quoi ? Ça pose aussi la question de l'évaluation. Très souvent, j'ai envie de dire, l'évaluation, bon, elle est nécessaire, mais elle est, dans le système à l'heure actuelle, elle est vécue quand même de manière un petit peu trop dogmatique, je pense.
Et donc, force de ton expérience, de ton approche globale de l'individu, de l'élève, de l'enfant, comment va se passer ton enseignement ? Comment est-ce que tu vas inclure devant une classe ce que tu as compris et acquis ?
Alors, c'est la raison même de mon choix de continuer à enseigner. À temps partiel, certes, mais c'est important parce que les outils que je propose en cabinet, alors c'est dans un cadre effectivement différent quand on est dans une relation thérapeute-patient, mais ça fonctionne et ça fonctionne aussi en groupe. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand je change moi-même ma position d'enseignant, ça change dans ma classe. Alors, qu'est-ce qui va... a priori, voilà, changer, c'est la prise en compte des émotions. C'est-à-dire quand je vais dire, prendre en compte mes propres émotions, moi en tant que prof, leur dire comment je me sens, mais comment eux aussi se sentent. C'est un investissement de, allez, 2 minutes en début de classe quand on fait un appel, de demander comment chacun se sent. Tout le monde n'est pas obligé de l'exprimer, mais on s'aperçoit que petit à petit, ok, et des jeunes de 18 ans, la première fois qu'on leur demande ça, en début, là, quand j'ai des nouvelles classes à la rentrée, ils se disent « Oh là là !» Alors, il est très spécial, il nous demande comment on se sent, il s'intéresse à... Enfin, c'est un peu particulier, et souvent, ils n'osent pas vraiment. Et puis, petit à petit, ils comprennent pourquoi. Alors, moi, ils travaillent aussi dans le vivant, puisqu'ils sont au ministère de l'Agriculture et des formations agricoles. Je leur dis « Quand vous occupez des animaux, vous prenez soin, vous êtes sensible au bien-être animal. Et en réalité, vous avez un mammifère, là, dont vous avez la charge. » Mais vous êtes en train de le maltraiter depuis de nombreuses années, c'est vous. Hein, vous ne prenez pas en compte vos besoins. Quand tu as 18 ans, on me lève la main pour dire ce que je peux aller aux toilettes. Non mais où on en est par rapport à nos propres besoins de base. Alors, c'est des choses que moi, je ne fais pas. C'est-à-dire, si j'ai besoin de sortir, je vais aux toilettes. Au départ, je leur dis, oh, moi, je vais aux toilettes. Et puis, au bout de 15 jours, ils me disent, mais monsieur, aucun enseignant nous dit ça. Mais je dis, bah, vous voyez, donc... pourquoi ? Et puis finalement, petit à petit, ils apprennent à gérer leurs propres besoins comme ça. Et l'eau, c'est quelque chose de fondamental. Je disais tout à l'heure, c'est mon premier outil de travail. Donc en classe, ils sont passionnés par ça, en fait, parce qu'ils sont désireux de comprendre comment ils apprennent. Et puis, ben, quand après, on apprend, on sait un petit peu décoder son mode de fonctionnement, et qu'on est enseignant, on peut adapter. Moi, je suis beaucoup kinesthésique, c'est-à-dire assez tactile. Ben, je vais utiliser mon corps, hein, très souvent pour m'exprimer. Je suis le genre à parler avec les mains, à bouger beaucoup dans mon environnement de classe, etc. Mais tous les élèves ne sont pas comme moi. Je vais avoir des élèves qui seront à préférence, hein, on a tous l'ensemble des canaux, mais à préférence visuelle. Pour eux, je vais adapter l'utilisation que je vais faire au tableau, penser à leur donner des schémas, penser à, et puis je vais avoir des gens qui seront plutôt verbaux, auditifs. Et du coup, eux, le texte, ce sera un élément sur lequel ce sera important. Voilà, ça, si je me cantonne à moi, mon évocation d'enseignant, je vais dire, je vais utiliser mon mode préférentiel qui est le kinesthésique, puis je suis un prof technique et du coup, je vais beaucoup bouger, faire ça par le mouvement et je ne vais pas prendre en compte les besoins de mes élèves. Et c'est ce qui se passe en réalité dans certaines classes. Souvent, les élèves me disent non, mais c'est pas vis-à-vis de la discipline. J'aimais bien ça l'an dernier, mais avec tel prof ou avec tel autre. Donc, c'est la modalité qui a changé. L'enseignant d'histoire qui aime raconter des histoires, il est un petit peu différent de celui qui aime faire des sketchs. Alors, si on est kinesthésique, on va aimer celui qui fait des sketchs, qui revit les batailles, qui vous les fait vivre, voilà. Hein. Et puis, si on est auditif, on va dire, lui, raconter des histoires, super, je m'en souviens encore. Si on est auditif, soi-même, quoi, voilà.
Mais c'est compliqué, donc il y a une telle diversité au sein des apprenants, hein, des enfants. Tu peux pas, devant une classe de 20 ou 30 enfants, pouvoir appliquer une méthode qui soit efficace pour tous. Tu me parles de ceux qui sont plus auditifs, ceux qui sont plus dans le ressenti, dans le... Comment est-ce qu'on va gérer ça? Parce que chaque individu a un code qui lui est propre et un code d'apprentissage différent.
Ah oui, alors chaque individu a un code d'apprentissage qui lui est propre, c'est vrai. Alors je disais, on a trois grandes chemins d'évocation, hein, qui seront plutôt kinesthésiques, tactiles, auditifs ou visuels. Mais en réalité, j'ai changé un petit peu ma posture par rapport au métier d'enseignant qui... pour moi aujourd'hui consiste plus à apporter du savoir parce que il y en a plein, justement l'internet, les livres, les médias, le collectif, mais en me disant, mais et si le métier d'enseignant en réalité c'était de poser des questions? Je pose une seule question quand je travaille sur l'évocation, par exemple. Qu'est-ce qui vient dans votre tête quand je dis le mot batterie? Je dis ça une fois. Chacun vit les choses différemment, mais je l'autorise et j'autorise que chacun puisse venir avec sa palette évocative à partir du moment où il l'a construit. Donc, c'est dire, pour aller plus loin en gestion mentale, moi, je fais des distinguos entre ce que la mémorisation, qu'est-ce que ça veut dire apprendre, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Alors, c'est différent de mémoriser, de comprendre, d'imaginer, de réfléchir. Et ces gestes-là, d'être attentif. Être attentif, qu'est-ce que ça veut dire, être attentif? Être attentif, pour moi, c'est faire des évocations, laisser exister dans sa tête ce que l'on perçoit. Par ses oreilles, comme là, dans le cas de la radio, c'est en train de passer par les oreilles, par ses yeux, quelquefois, voilà, c'est le média d'entrée, ça va être la vue, par ses sens, en réalité. Mais très souvent, les élèves sont déconnectés de leurs sens. C'est très différent de mémoriser. Et quand j'ai des projets bien spécifiques, le projet de mémoriser quelque chose, c'est pas forcément le projet de le comprendre. Donc quand on veut faire mémoriser une poésie à un enfant, on pense quelquefois qu'il est nécessaire qu'il comprenne. Mais en réalité, on peut très bien mémoriser des éléments sans forcément avoir atteint l'acte de compréhension. Donc quand on sait comment ça fonctionne, comment on apprend un petit peu à décoder ça... ça permet à des élèves de préciser eux-mêmes leurs propres projets. Parce que quelquefois, ils doivent apprendre des choses par cœur, ils doivent se dire, je dois me bourrer le crâne, etc. Mais ils ne savent pas exactement comment. Alors s'ils essayent, l'exemple assez classique, c'est les tables de multiplication. Hein.
David, avant de parler, que tu m'expliques un petit peu, que tu me définisses ce que c'est que la psychopédagogie, j'aimerais juste qu'on redonne une dimension visuelle de l'endroit où on se trouve. Donc là, on est assis par terre dans ton cabinet de praticien. Avec autour de toi, j'imagine, différents outils. J'aimerais que tu me décrives cet espace et que tu me parles des outils que tu utilises pour la psychopédagogie.
Alors, il y a des outils qui vont me servir dans une approche tête, cœur, corps. C'est-à-dire que, il y a un certain nombre, et je pense que c'est première chose, c'est qu'on est inscrit au sol, il y a des coussins, il y a un ballon de gymnastique ici, il y a une moquette et quelque chose d'assez confortable pour qu'on puisse être au sol, pieds nus ou en chaussettes et s'y sentir bien. Il y a des outils qui vont nous permettre d'exprimer notre créativité. Alors, il y a beaucoup de couleurs parce que c'est gai et joyeux. Il y a des crayons de couleur un petit peu partout, des éléments colorés un petit peu partout dans cette pièce. Un grand tableau blanc qui va me servir à dessiner, mais avec aussi des couleurs très sympas. Et puis, il y a une table de massage parce que je travaille au niveau des réflexes archaïques. Et quelquefois, j'ai besoin de travailler sur des corps qui sont allongés ou dans différentes postures pour travailler sur le mouvement. Voilà, donc la pièce, elle est, je pense, assez chaleureuse. Elle est un petit peu, je veux pas dire en bazar, mais il y a une organisation qui est propre à celle qui me convient et qui est assez cerveau droit, quoi. Et parce que la couleur est... La joie, c'est l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel qu'on peut retrouver ici, quoi.
Et qui c'est qui va venir ici? Des parents ou des enfants ou les deux?
Alors, les deux. Lors d'une première séance, je reçois souvent le parent ou les parents et l'enfant pour définir les objectifs, prendre connaissance de l'histoire de l'individu dans sa globalité, mais dans son contexte aussi. Parce qu'un enfant, c'est pas juste un enfant, c'est un système familial en réalité. Très souvent, c'est défini par rapport à la fratrie, par rapport aux parents, grands-parents. Chaque famille a ses propres croyances par rapport aux apprentissages. Réfléchissez juste à quelle est la croyance forte que qui vous a été transmise par exemple par vos grands-parents par rapport aux apprentissages. Donc c'est le parent, l'enfant. Plus tard ce sera l'adulte, et quand c'est le jeune adulte, ce sera l'adulte seul, parce que ça arrive aussi que je reçoive des adultes qui sont désireux de connaître leur mode d'apprentissage ou qui se remettent en situation d'apprentissage ou de projet dans la vie. Aujourd'hui, heureusement, c'est quand même assez souvent le cas, c'est plutôt positif. Et puis ensuite, je travaille avec les enfants seul en séance, et c'est des séances qui durent une heure en général. Et puis, alors la particularité, c'est que moi je suis pas psychologue, dans le sens, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai pas une approche pathologique de la psychologie, donc c'est pas une psychothérapie, on va utiliser ces outils pour apprendre notre fonctionnement cérébral, souvent par le jeu, par l'expression des émotions et puis l'expression corporelle. Et en général, en moins d'une dizaine de séances, on a atteint les objectifs qu'on s'est fixés au départ avec les parents, alors qu'ils sont pas toujours quantifiables en termes de notes, et heureusement qu'ils sont des fois juste des, qu'il y ait un changement de comportement, à quoi je saurais que j'ai réussi à travailler avec vous, c'est souvent la question que je pose dans le premier entretien. Et puis si c'est, parce que c'est pas évident, chacun a sa propre définition du bonheur, c'est-à-dire je veux quitter mon malaise de l'école ou ma phobie, mais voilà, comment je saurais que j'ai réussi finalement à ne plus être phobique de mon environnement scolaire? Très souvent, effectivement, on va utiliser des formulations négatives, et en particulier dans l'environnement scolaire, quoi. Et des auto-formulations négatives, quoi, en particulier chez les ados, qui vont assez rapidement réussir à se convaincre qu'ils ne sont pas assez ceci, pas cela. Alors, c'est aussi renforcer les succès. Dans le système d'évaluation, on voit bien plus les mauvaises notes que les bonnes. Donc moi, quand il y a des progrès, quand il y a des bonnes notes, j'aime bien faire des podiums, des réussites, de focaliser sur ce qui est important. Et quand on porte notre attention sur quelque chose, eh bien ça accroît sa présence dans notre vie. Donc si on arrive à prendre une mauvaise note comme une étape où qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience, eh bien le pari est en passe d'être gagné, quoi.
David, dernière question, qu'est-ce que c'est pour toi, ou qu'est-ce que ça serait pour toi d'avoir réussi sa scolarité? L'image de la réussite que tu as envie de donner?
Je pense que la réussite, c'est tout simplement d'être heureux dans ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire c'est d'une certaine manière décomplexé par rapport à un certain nombre de croyances, et d'avoir réussi à se dire j'ai fait ce que je voulais, je suis comme je suis, et je m'aime comme je suis. C'est réussir à s'accepter, et ça, c'est un bon bagage pour l'entrée dans la vie active, quoi, d'être capable de dire je suis un système apprenant et je vais continuer à apprendre toute ma vie.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.